trop sur l'un ou l'autre aussi. On a parlé des questions d'écologie, d'éthique financière, de structure de péché et ces choses-là. Et en fait, toutes ces questions-là de vie morale des chrétiens et de la société sont des questions quand même qu'on retrouve facilement dans des discussions qui gravitent autour de la vie de l'Église. L'Église, elle a l'occasion d'intervenir dans des débats publics ou de donner son point de vue sur, sur un certain nombre de questions de la vie sociale. Je pense par exemple au document que les évêques ont publié il y a un mois ou un mois et demi sur des critères de discernement en vue des élections. Alors on a envie de prendre leur document puis de regarder déjà la dernière page pour savoir pour qui on va voter, en ayant l'absolution après, c'est pas écrit dedans. Mais il y a des éléments qui nous sont donnés pour affiner notre discernement. Et donc l'Église regarde aussi et peut donner son éclairage sur des questions de mœurs, sur des questions de vie sociale, sur des questions de travail humain, etc. Et dans le même temps, on attend justement de la part de l'Église, l'actualité récente l'a démontré, si on repense à ce fameux rapport de la CIAZ, on attend des membres de l'Église un comportement qu'on va qualifier de comportement moral ou éthique, et qui, s'il est défaillant, ce comportement, il consiste en un véritable contre-témoignage. C'est un des exemples que je prends assez facilement depuis longtemps, quand j'étais dans une autre paroisse, une petite paroisse, qui était la capitale de la moto, et qui peut se traverser par une route toute droite, bon, il y a deux chicanes, mais c'est très facile de la traverser, de traverser la commune à 120 km/h, il n'y a aucun problème, d'autant plus à moto. Mais si je le fais, les gens ne vont pas se dire seulement « il est fou, celui-là il est imprudent », mais ils se seraient dit « il est imprudent et en plus, on l'a reconnu, c'est le curé », ce qui aggrave le point moral. Donc, on voit bien qu'on attend de l'Église et des membres de l'Église une attitude morale qui soit un témoignage de ce que l'on croit. Donc, c'est pour ça qu'on va approfondir cet après-midi. Alors, plusieurs points. D'une part, qu'est-ce que faire de la morale, et l'Église a-t-elle sa légitimité à parler de morale, a-t-elle son mot à dire? Ensuite, on va se centrer dans une deuxième partie sur la personne humaine comme sujet de vie morale. On va s'attaquer à notre fond de commerce, en tout cas à ce qui est mon fond de commerce à moi en tant que moraliste et en tant que prêtre, c'est le péché. S'il n'y avait pas cette notion-là, j'aurais plus de raison d'être. Donc on va parler de la question du péché, et on va arriver à la question de la responsabilité et de la liberté, bien évidemment. Alors, dans le cursus que je vais suivre, vous aurez, je vais vous montrer tout de suite si ça veut bien fonctionner. Je mets donc en haut, vous avez la partie dans laquelle je suis, et quand je donne des citations, parce qu'il m'arrive de donner des citations assez parfois un peu volumineuses, qui j'espère explique ce que je dis, n'ajoute pas la confusion, le but c'est ça. Mais c'est pas la peine de les noter parce que vous les retrouvez après sur le site, donc, d'où le fait de les avoir là sous les yeux, ça les rend plus intelligibles et ça vous permet de ne pas gratter. Donc première partie, faire de la morale. Une première partie qui va consister d'abord dans une rapide définition de ce qu'est la morale ou l'éthique. Le terme d'éthique en grec désigne les mœurs, les usages, l'éthos, E-T-H-O-S. Et en fait, le terme morale vient, lui, du latin mors, moris, qui désigne les coutumes, les mœurs, les usages. Donc, du point de vue du vocabulaire, c'est la même chose. On désigne les mêmes choses. Mais dans l'usage des termes, on va utiliser le terme d'éthique de manière beaucoup plus large et généralement le terme de morale de manière plus stricte. Alors, une définition que vous n'avez pas sous les yeux, c'est celle de Paul Ricoeur, qui met, lui, dans la morale, les distinctions entre obligation et interdiction, et va mettre dans l'éthique, plutôt sous le terme d'éthique, le désir d'une vie accomplie avec et pour les autres dans le cadre d'une institution juste. Qu'est-ce que ça met en relief ? C'est que dans le fond, on a un regard qui sera peut-être plus négatif sur l'usage du terme moral, qui va faire référence plus directement à ce qui est autorisé ou interdit, et une vision plus large de l'éthique, où il y a vraiment une recherche de ce qui est juste de manière... C'est un peu ce que l'on voit, par exemple, si on interroge, vous savez, autour de nous, dans la vie civile, vous sortez là du moustoir, vous allez faire un micro-trottoir, et vous demandez, être chrétien, c'est quoi ? Et les gens, alors ceux qui sont très cultivés, vous répondent qu'il n'y a pas le droit de manger de viande le vendredi. Ceux qui sont moins cultivés, vous répondre des trucs plus basiques, c'est je crois qu'il faut aller dans l'église, je crois qu'ils ont pas le droit de se marier, et enfin vous voyez, en fait il y a toujours une vision de la vie chrétienne qui est je peux ou j'ai pas le droit, voilà, et c'est, il y a un sketch de Gad Elmaleh comme ça qui vous allez voir, mais pour vous détendre, hein, c'est pas dans le contenu. qui compare les religions comme ça, alors les juifs avec le sabbat et toutes les prescriptions du sabbat, les musulmans avec toutes les prescriptions aussi qui touchent à la vie de l'islam, etc. Et ils caricaturent les chrétiens en disant bah, c'est quoi les chrétiens ? Les chrétiens, c'est oh tiens, on va aller chercher des œufs. C'est pas du tout dans le catéchisme qu'on va chercher des œufs. Mais vous voyez, dans la vision, on a quand même une vision parfois de la religion qui est dans le domaine de préceptes à accomplir ou autre. C'est pour ça qu'on va essayer d'approfondir ça. La pensée chrétienne se fonde énormément sur Aristote, et qui a déjà influencé pas mal les pères de l'Église. Sa pensée était diffuse. Il n'était pas connu dans le sens où on avait analysé ses œuvres, mais sa pensée était déjà diffuse, et elle a été réapprofondie à partir de la théologie médiévale. Et Aristote, vous savez, écrit ce fameux Nicomaque, c'est un prénom, un manuel d'éthique, c'est-à-dire comment dérouler sa vie. Et dans cette éthique à Nicomaque, il commence en disant « Tout homme désire naturellement être heureux », et sa définition de base, c'est toute recherche, de même que toute action et toute délibération réfléchie, tendent, semble-t-il, vers quelque bien. Aussi a-t-on eu parfaitement raison de définir le bien, ce à quoi on tend en toutes circonstances. Voilà le but de la morale. Alors, c'est pas un catho qui le dit, c'est un philosophe, précède le Christ, mais c'est ce qui sous-tend toute la réflexion morale. Rechercher le bien et tendre à l'accomplir. Ce qui va être réduit ensuite, alors je fais un bond de quasiment 2000 ans en avant, par une question que pose Kant, qui voit dans la morale la réponse à une question: que dois-je faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une morale de précepte, une morale d'obligation. Vous voyez qu'on a déjà deux écoles qui se présentent devant nous. Elle n'est pas complètement ignorée des catholiques, cette question-là. Que dois-je faire? Parce que si vous ouvrez l'évangile, par exemple, l'évangile de Saint Matthieu, c'est aussi dans les synoptiques, mais Saint Matthieu est celui qui redonne le mieux cet épisode-là. C'est l'épisode du jeune homme riche qu'on a eu, je crois, la semaine dernière, en début de semaine à l'évangile. Je crois que c'était pour le mardi gras, on a eu ça, ou le lundi avant. On a ce jeune homme qui va vers Jésus et qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Donc le « que dois-je faire ?» on l'a, sauf qu'il s'inscrit dans une perspective qui est celle de la vie éternelle. Et Jésus, vous connaissez cet évangile du jeune homme riche, Jésus lui dit d'abord des préceptes. Observe les commandements. Lesquels? Il récite les commandements, pas aussi bien que le père Yvan Brien tout à l'heure, mais parce qu'il en récite, il récite que les derniers, en fait. Il dit, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Puis il prend les commandements de préceptes négatifs, tu ne mangeras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et là, le jeune homme dit, mais tout ça, je l'observe déjà. Jésus le regarde et il l'aime. On ne sait pas si c'est un amour de compassion, pour dire, mon coco, t'es bien gentil, enfin, si tu dis que tu les observes vraiment, normalement, c'est difficile de les observer intégralement. On a vu le « tu ne tueras pas », on voit qu'avec nos paroles, on peut tuer, comme disait le père Yvan Brien, que vous prenez ça du Saint-Père. Et donc Jésus lui dit, là, c'est bien. T'en es déjà là, maintenant continue. Va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. La morale chrétienne est une marche vers la vie éternelle et elle est donc dynamique. C'est pas quelque chose où je peux dire voilà, au bout d'un... Il n'y a pas une moyenne à valider pour dire c'est bon, j'ai acquis ma morale et j'y suis. Et puis et ensuite... Tout irait tout seul. Alors, pour rentrer dans cette définition de la morale, je vous ai cité simplement le catéchisme de l'Église catholique. Dans l'introduction à tout son développement sur la morale, dans le catéchisme de l'Église catholique, vous avez quatre grandes parties qui sont reprises dans le catéchisme du Concile de Trente, hein, qui est le schéma classique du catéchisme de l'Église. Première grande partie, c'est le credo, les articles de notre foi. Deuxième grande partie, c'est les sacrements, ce que le Seigneur nous donne actuellement du point de vue de la grâce pour que nous puissions cheminer vers lui. Troisième partie, la partie morale. Et quatrième partie, la prière, à partir des sept demandes du Notre Père. Et dans la partie morale, lorsque Jean-Paul II a fait travailler le catéchisme de l'Église catholique, on est à la fin des années 80, il envoie une première épreuve à tous les évêques du monde et il leur demande comment ils perçoivent ce travail-là. Il y a eu une bonne réception, sans doute quelques évêques dogmaticiens qui ont été fouillés, quelques citations dans le credo, quelques évêques experts en sacramentaire qui ont été regardés si on ne pouvait pas inverser deux propositions dans un paragraphe sur le sacrement de mariage ou je ne sais pas quoi. Et il y a eu pas mal de critiques sur la partie morale qui reprenait le plan du catéchisme de Trente, c'est-à-dire les dix commandements, et qui développait la vision de la morale de l'Église latine. Et ce développement-là, en fait, a été mal reçu parce que perçu comme trop négatif. Et un certain nombre d'évêques disaient ben, il faudrait, plutôt que de se baser sur les dix commandements, il faudrait vraiment voir les choses sous un angle Nouveau Testament, post-Concile Vatican II, aggiornamento, etc. Et donc, plutôt se baser sur les huit béatitudes, quelque chose de dynamique. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Voilà. Donc, il y avait quelque chose qui recherchait une plus grande dynamique. Finalement, le pape Jean-Paul II a confié ça à un moraliste, le père Cottier, qui sera fait cardinal après, ce qui prouve que visiblement le pape a apprécié son travail, et qui a subdivisé en fait cette troisième grande partie en deux sous-parties. Une où on garde le décalogue, justement, pour expliquer vraiment la perspective de l'alliance que le père Yvan Brien nous a bien détaillé tout à l'heure. Et puis une qui va plus sur les fondements, effectivement, dans cette perspective du bonheur. Et donc cette troisième partie s'appelle la vie selon l'esprit. Et elle est introduite avec le paragraphe que vous avez sous les yeux. La dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle s'accomplit dans sa vocation à la béatitude divine. Il appartient à l'être humain de se porter librement à cet achèvement. Par ses actes délibérés, la personne humaine se conforme ou non au bien promis par Dieu et attesté par la conscience morale. Les êtres humains s'édifient eux-mêmes et grandissent de l'intérieur. Ils font de toute leur vie sensible et spirituelle un matériau de leur croissance. Avec l'aide de la grâce, ils grandissent dans la vertu. Ils évitent le péché, s'ils l'ont commis, s'en remettent, comme l'enfant prodigue, à la miséricorde de notre Père des cieux. Ils accèdent ainsi à la perfection de la charité. Donc là, on a tout plan. Alors, on n'a pas tout détaillé aujourd'hui, mais on s'enracine dans l'image et la ressemblance de Dieu, et on est fait pour la vocation divine, pour la vie éternelle. La morale, et on verra ça à la fin, se vit librement. Et en fait, elle a cette perspective de Dieu, et mes actes me perfectionnent. C'est ce qu'on reverra un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que la manière avec laquelle je me comporte, dans les actes les plus profonds de mon existence, lorsque je dis oui à mon époux ou à mon épouse devant l'autel pour m'engager dans le mariage, évidemment, on voit bien que ça nous porte quand même à ça, mais aussi la manière avec laquelle je pose mon crayon, me sanctifie ou ne me sanctifie pas. Alors vous allez me dire, oui, ok, il est gentil avec son stylo, mais est-ce que c'est vraiment son stylo qui va l'envoyer en enfer ou qui va l'envoyer au ciel? Non, évidemment. Sauf que si, lorsque je mets mon attention sur mes actes, si je balance le stylo alors que je sais très bien que c'est un stylo à encre liquide et qui risque de couler dans le bouchon, eh bien, je peux le faire de manière accidentelle, mais je peux le faire aussi de manière volontaire. Il m'énerve tous à être là sans rien dire, etc. Je balance mon machin. Et ça qualifie mon acte, vous voyez. Ce que je disais l'autre jour à ceux qui étaient à Havane, le stylo que je mette comme ça ou comme ça dans mon pot au crayon, ça peut être un acte moral. Soit parce que mon stylo plume coule, c'est le cas chez moi. Si je mets la plume vers le bas, je retrouve la cartouche vide, le pot à crayon avec un fond d'encre et le bouchon, enfin, je ne veux pas de nettoyer le stylo. Donc, ça me qualifie. Donc, en portant mon attention à ça, ça peut être fait quasiment machinalement, maintenant je le sais, et voilà, mais ce qui ne veut pas dire que je le fasse facilement. Mais en portant mon attention à ça, je peux donner une bonté ou une malignité à mon acte. En fait, je me grandis ou pas en accomplissant mon acte. Je me perfectionne. Alors, ça joue sur ma nature. Alors là, je prends un acte qui est vraiment, j'ai pris un exemple qui est absolument anodin, hein, qui n'a pas un poids énorme. Et on voit quelles répercussions ça peut avoir. Voilà, ça se fait en conscience. Donc, on grandit de l'intérieur. Et en fait, dans la vertu, ça nous dispose de plus en plus, par cette vertu, à éviter le péché. Plus je serai vertueux, plus il me sera facile d'éviter le péché. Ça, c'est un truc très simple qu'on voit par notre comportement, par exemple, sur la prudence. Plus je suis prudent quand je conduis mon véhicule, plus il me sera facile d'éviter de faire des actions qui sont de griller la priorité à celui qui sort de la rue de droite ou je ne sais quoi. Donc on voit bien que ça nous dispose de plus en plus, même si ça ne veut pas dire que ce soit automatique. Je peux être disposé à la tempérance, c'est-à-dire me dire, voilà, c'est bon de boire un verre de vin par jour ou un verre de vin par repas, avoir cette très bonne disposition, posséder la vertu de la tempérance, voilà, Et puis il y a un jour où je me prends les pieds dans le tapis, et comme j'ai des amis qui sont là et que la bouteille qu'ils ont amenée était très bonne, et bien en fait je me suis sifflé toute la bouteille. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus tempérant, mais ça veut dire que je n'ai pas agi avec vertu à ce moment-là. Oui. Et c'est quand même aussi une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est pas parce qu'on s'est pris une fois les pieds dans le tapis qu'on est fichu. Sur quoi se fonde toute cette réflexion de l'Église en morale? Le premier fondement, c'est évidemment la révélation. Écriture, pour commencer, mais aussi tradition et magistère. Pourquoi? Parce que on se situe dans une relation avec Dieu qui nous est révélée par les Saintes Écritures et qui est éclairée par la tradition, l'expérience de l'Église et le magistère. Alors, l'Église a-t-elle son mot à dire? Je passe sur là. Dans le Concile Vatican II, il y a une phrase qui est dans le décret sur la liberté religieuse qui, quand si je n'avais pas mis la citation, ça aurait pu être surprenant. De par la volonté du Christ, en effet, l'Église est maîtresse de vérité. Sa fonction est d'exprimer et d'enseigner authentiquement la vérité qui est le Christ, en même temps que de déclarer et de confirmer, en vertu de son autorité, les principes de l'ordre moral découlant de la nature même de l'homme. Vous ne croyez pas que c'est un peu présomptueux d'aller dire ça? Surtout dans un document qui traite de la liberté religieuse. C'est assez étonnant de voir les choses comme ça, surtout dans une... Maintenant qu'on relit, à une époque, on est assez relativiste et on aurait tendance facilement à dire que comme les autres sont gentils, bah, tout le monde a un peu la vérité, il suffit d'être gentil pour dire qu'on a la vérité. C'est un peu compliqué de voir ça. Alors, l'Église catholique est effectivement... a un rôle, et c'est ce qu'on croit quand on dit notre credo, en tout cas, c'est ce qu'on dit. L'Église a un rôle qui se base sur la connaissance de la révélation et sur la tradition pour interpréter la voie de la vérité qui est le Christ. L'Église engage-t-elle son infaillibilité? Par exemple, lorsque le pape va voir l'ambassadeur de Russie à Rome? Non. Le pape n'engage pas l'infaillibilité de l'Église pour ça. Le pape engage l'infaillibilité de l'Église lorsqu'il définit ex cathedra, c'est-à-dire de manière solennelle, en accord avec les évêques, une définition qui touche au magistère de l'Église. Je prends un exemple. Vous avez lu l'encyclique Fratelli Tutti? Oui, non, en partie, résumé, bref. Et dans cette encyclique-là, le Saint-Père introduit une réflexion qui est sur la question de la guerre juste. Elle est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Alors, en tout cas, de notre point de vue, ça s'est rapproché un peu. Il dit, est-ce qu'on peut encore parler de guerre juste? Alors, ceux qui sont les tenants de la guerre juste ont dit... Attendez, saint Augustin en parle, saint Thomas d'Aquin en parle, ça fait partie de la tradition de l'Église, voilà que le pape casse la tradition de l'Église. Pas du tout. Il a introduit une nouvelle réflexion, parce que la théologie est toujours en approfondissement. Et puis il y a ceux qui ont vraiment une vision plus irénique de la chose, qui disent, enfin, le pape vient de dire qu'il n'était absolument jamais possible de faire la guerre. Et en fait, le pape n'a dit ni l'un ni l'autre. Alors je caricature hein, évidemment les réactions, mais c'est un peu ce qu'on a vu, parce que quand on reçoit un document, dans les 4 heures qui suivent, il y a déjà 5000 tweets de la interprétation du truc. Donc le magistère n'a pas défini de choses, pourtant c'est dans une encyclique. Mais le magistère se lit à la lumière de tout le passé. Et il y a un truc qui est très intéressant, ça on s'en rend compte de manière très, très explicite lorsqu'on regarde les deux derniers dogmes qui ont été définis par l'Église catholique. Dogme de l'Assomption en 1950, dogme de l'Immaculée Conception en 1854. ces deux dogmes-là sont définis solennellement par l'Église, et pourtant, ils étaient déjà vécus dans la foi des fidèles depuis très longtemps. On parle de l'Assomption de la Vierge Marie. En France, le 15 août, la fête de l'Assomption, elle est solennisée depuis le fameux vœu Louis XIII. Donc ça remonte, hein. Et l'Église ne le définit solennellement qu'en 1950. Ça veut dire qu'en fait, le magistère n'est pas là comme un code pénal, vous voyez, qui indique d'abord aux fidèles comment faire, mais comme un éclairage qui vient mettre en relief la foi de l'Église pour nous redonner des éléments. Un aspect qui est intéressant dans cette définition-là, c'est que l'Église va déclarer ou confirmer les principes de l'ordre moral découlant de la nature même de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ce qui est reçu de la révélation qu'elle va transposer en morale. Parce que vous pouvez prendre le Lévitique, par exemple, où il y a tous les préceptes de l'Ancien Testament. Le Lévitique, pour nous, il est carrément inobservable ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux préceptes qui s'opposent à tout breton. Le fait de manger du porc est interdit, le fait de manger des huîtres est interdit. Donc, nous, on ne peut pas. Donc, on pourrait être excommunié, simplement parce qu'on est breton, grosso modo. Eh bien, l'interprétation de la loi morale n'est pas uniquement des préceptes que l'on reçoit comme ça, mais qui se lisent aussi à la lumière de la nature de l'homme. Donc on va chercher qui est l'homme, sous le regard de Dieu bien sûr, mais qui est l'homme. Et donc c'est pour ça que l'Église pourra se dire aussi experte en humanité, parce que sa théologie, sa réflexion, ça c'est une expression de Saint Paul VI. Sa théologie n'est pas simplement quelque chose de l'ordre de la spéculation à partir de la Sainte Écriture, mais aussi vécu de l'expérience du peuple des fidèles. Et ça, c'est très important du point de vue de la vie morale. Parce que sinon, c'est irrecevable de vivre la morale si c'est juste un truc reçu de manière verticale. Quelle est la perspective de la morale chrétienne ? Je donne trois éléments de fondement. Premier élément, c'est dans Dei Verbum, toujours le Concile Vatican II. Jésus ordonna à ses apôtres de prêcher l'évangile à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale en leur communiquant les dons divins. Première chose très importante, c'est que si nous faisons de l'enseignement moral de l'Église simplement des préceptes à recevoir, ce sera stérile. Ce qui commence à nous faire entrer dans la morale, c'est en leur communiquant les dons divins. C'est-à-dire que la vie, ma vie de prière, ma vie sacramentelle est au service de ma vie morale. Voilà. On pourra entendre des gens qui nous diront, et ils n'ont pas tort, il y a un certain nombre d'honnêtes gens qui se comportent très très bien, qui ont une vie droite, qui ont une vie édifiante, sans aller à l'église et sans prier. Bien mieux, alors vous, je ne vous connais pas, mais j'allais dire bien mieux que vous, et même peut-être que moi. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'église pour être quelqu'un de droit. Seulement, l'église, elle ne vient pas simplement donner les préceptes de la droiture, elle vient communiquer la vie de Dieu pour que la grâce nous aide à marcher sur les traces, dans une vie morale. Et ce qu'on peut répondre à ces gens-là, c'est que vous avez bien la chance d'être droit, Et moi, si je n'avais pas la parole de Dieu et si je n'avais pas la vie sacramentelle, ce serait encore pire ce que je serais. Donc, voilà, c'est sûr, ce n'est pas top, mais ce serait pire. En tout cas, il n'y a pas de morale, du point de vue de la vie chrétienne, qui soit dissociée de cette évangélisation profonde, donc de cette adhésion au Christ. D'autre part, je l'ai déjà mentionné, c'est dans un document de Jean-Paul II, qui fait suite justement à la troisième partie du Concile Vatican II, du catéchisme de l'Église, pardon, une encyclique de 1993, La splendeur de la vérité, Veritatis Splendor. Si cette question des fondements de la morale vous intéresse, c'est vraiment le document à lire, mais ce n'est pas le document que vous lirez sur la plage l'été prochain, sous un parasol. C'est-à-dire qu'il est bien rédigé, il est très clair, je crois qu'il y a une bonne, parce que le cardinal Cottier aussi, qui est suisse, hein, non seulement il est dominicain, donc avec une pensée assez systématique, mais en plus il est suisse, donc une pensée systématique suisse. Mais donc ça permet de mettre un peu de clarté dans le développement des idées. Vous savez que Jean-Paul II, parfois, il a une pensée qui est difficile à suivre parce qu'il revient chercher des éléments en arrière, il les rapporte, il les réchauffe, voilà. Donc c'est parfois difficile à suivre. Là, c'est méthodique, mais c'est des sujets assez profonds, quoi. Donc c'est pas le petit roman qu'on se lit sur le transat. Ceci dit, dans ce document-là, en définissant la morale, justement, Jean-Paul II dit « La question morale à laquelle le Christ répond ne peut faire abstraction de la question de la liberté. Elle la place même en son centre. Il n'y a pas de morale sans liberté. L'Église ne veut rien imposer. Elle veut éclairer la liberté de l'homme pour que lui-même puisse dire oui à Dieu. » Voilà. Et du coup, tout acte moral n'a de valeur que s'il est libre. Vous voyez ? C'est beaucoup plus grand pour un enfant de 7 ans de manger une endive cuite de bon cœur, en faisant contre mauvaise fortune bon cœur, en disant ça va faire plaisir à mes parents si je la mange, que de manger la même endive cuite si on lui pince le nez en lui enfournant les machins dans la bouche. Vous voyez, ça aura une toute autre portée morale. Et pour nous, pour tout acte, c'est la même chose. Si je roule à 80 ou à 50 dans le bourg de Port-Carreau, parce que je me dis qu'il pourrait toujours y avoir un radar derrière la haie là-bas, bien ce ne sera pas un acte vertueux. Si je le fais en adhérant à la loi et en sachant que c'est une mesure de prudence, ce sera un acte vertueux. Vous voyez, donc, derrière la même vitrine, le tableau qu'on voit derrière la vitrine, c'est le même, sauf que l'intention, elle change complètement, et ça fait varier complètement notre acte. Donc, très grande importance de la liberté. Saint Augustin exprime de manière aussi très clair, justement, notre perspective chrétienne, c'est un peu lapidaire, même comme manière de le dire. Voyez combien sont pervers et hors de tout ordre ceux qui pensent nous transmettre la connaissance de Dieu pour nous rendre parfaits, alors que cette connaissance de Dieu est la récompense des parfaits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je cherche à faire connaître Dieu pour que les gens se comportent bien, il y aura quelque chose qui sera encore artificiel. Dieu, ce sera le gendarme. Alors que la nature de mes actes, la droiture intérieure, me permettra d'arriver à Dieu. Et ça, saint Augustin préfère largement cette perspective-là. Même si, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, la révélation et la connaissance de Dieu me permet aussi d'éclairer la valeur de mes actes. Alors le pape Saint Jean-Paul II, lorsqu'il s'est penché sur cette question de la vie, de l'éthique de l'homme, eh bien, il a affronté directement la question de la nature humaine. C'est un vieux débat qui existe et qui est réchauffé depuis ce qu'on appelle le siècle des Lumières, où au siècle des Lumières, il y a eu une tension qui s'est inscrite dans la pensée philosophique autour de la question de la loi naturelle. Exemple de loi naturelle, qu'est-ce que la loi naturelle en fait ? La loi naturelle, l'Église dit, c'est ce qui commande, enfin, ce qui indique comment un homme, avec un H majuscule, hein, se comporte en fonction de sa propre nature. Lecture différente, ce sont les lois de la nature qu'on applique à l'homme. Oui. Sauf que dans les lois de la nature, il y a un peu de tout. Donc, on peut aussi tout appliquer. Je prends l'exemple des bonobos, qui sont, paraît-il, ceux qui ont le comportement social le plus proche des hommes. Les bonobos, ils ont une technique pour résoudre les conflits à l'intérieur de la communauté bonobo. C'est que les mâles, alors il y a une certaine fidélité dans les couples de bonobos, mais il y a des mâles dominants dans la tribu, et lorsque des femelles se battent entre elles, eh bien, le mâle, pour rétablir la paix dans la tribu, va s'accoupler avec chacune des femelles qui s'est battue avec les autres. Imaginez, si on dit, bah, ça existe dans la nature, donc je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, nous aussi. Donc ça marche pas. On voit bien qu'on ne peut pas juste transposer les lois de la nature sur l'homme. Donc il y a une réflexion à avoir sur ce qu'est la nature humaine pour qu'elle puisse se développer. Comment ?
Ceci dit, ça existe quand même dans certaines tribus dans le monde. Hein ?
Oui, ça existe peut-être dans certaines tribus dans le monde. Est-ce que ça correspond à la bonté de la nature humaine, vous croyez ?
Alors, c'est-à-dire que c'est une grande discussion que nous avons déjà eue ce midi. Ça dépend où est-ce que nous mettons notre curseur et comment nous voyons le monde. Okay. Et c'est-à-dire que nous, en tant qu'Occidentaux, avec un enseignement des traditions chrétiennes et parce que nous croyons, nous avons certaines façons de nous exprimer et de voir le monde.
Ouais.
Maintenant, si j'étais née dans ce genre de tribu, est-ce que j'aurais accès au même savoir, au même... Et j'aurais cette réflexion, je ne sais pas.
Oui, non, ça c'est deux choses différentes, d'avoir la réflexion et de savoir ce que c'est-à-dire et de définir la nature humaine. Est-ce qu'il existe une nature humaine ?
Est-ce qu'il existe des natures humaines ?
Alors, il y aurait des natures humaines. Donc, il y aurait aussi des divergences au sein même de l'humanité sur la nature. Sur la nature humaine.
En fait, c'est un peu toute la question.
Oui. Oui, c'est toute la question, mais c'est hyper important.
Après, il y a ce que nous savons, ce que nous croyons. Et pour le coup,
oui.
Moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants,
oui. Mais
pour ça.
Mais est-ce que le contexte ou la tradition ne se heurte pas, au bout d'un moment, à une certaine forme de négation aussi de la nature humaine ? Je prends un autre exemple, alors qui, pardon, est complètement horrible, mais qui est un exemple réel. Dans une de mes paroisses précédentes, un ancien militaire qui s'était reconverti au moment de sa retraite, quand il a pris sa retraite militaire, en allant faire du conseil, enfin d'essayer de donner des éléments de techniques de résolution de conflits, justement, dans des pays qui étaient pas très avancés dans la même réflexion. Dans un des villages très reculés dans lesquels il a été, il y avait un problème auquel il se heurtait, enfin pas lui, mais dans le village, c'est qu'il y avait des enfants qui étaient possédés par des mauvais esprits. Un enfant qui est possédé par un mauvais esprit, c'est un enfant qui braille et qui braille, et puis on n'arrive pas à l'arrêter. Et au bout d'un moment, on sait qu'il est possédé par un mauvais esprit, et là, c'est son père qui doit le prendre l'en est à l'écart, c'est affreux. Le tuer et manger son cerveau.
Oh. Oh. Non.
Pardon, je suis désolé. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça existe vraiment. Eh bien, je crois que c'est quelque chose qui s'oppose en soi à la nature humaine. Peut-être que par des croyances, comme c'est arrivé aussi chez nous, la conscience de ces gens-là a été faussée sur la vision de l'humanité. Mais je ne crois pas que l'on puisse dire bah, « ça appartient à l'humanité, donc ça fait partie de la nature humaine ». Vous voyez, je crois qu'on a pu aussi, de manière individuelle ou collective, rentrer dans une vision faussée et moralement mauvaise de l'humanité. Et eux, là-bas, actuellement, mais nous aussi, hein, sur bien d'autres points, on peut avoir... Vous voyez, donc, on cherche toujours à essayer de mieux comprendre qui est l'homme pour essayer de définir. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, 8 mars, journée de la femme. Ça, c'est notre vision occidentale. Mais pourquoi est-ce que la femme serait l'égale de l'homme partout? On cherche à imposer ça. Donc on est des tyrans qui cherchons à imposer ça à d'autres cultures qui ne fonctionnent pas comme ça. Si on voit qu'il n'y a pas une nature humaine où la femme est égale de l'homme en dignité et en tout, si c'est juste une question des 5% de salaire, etc., on met la main à la poche et on donne des compensations, mais on arrête d'embêter les autres qui, s'ils le veulent, peuvent battre leur femme, ou si elle n'a pas fait la vaisselle, peuvent la tuer. Vous voyez? Parce que, dans ce cas-là, on n'a pas une vision... Enfin, si c'est qu'une histoire de contexte, d'opinion ou de tradition, enfin, ça me semble pas juste de vouloir imposer ça aux autres. Enfin, je ne sais pas, mais...
En même temps, dans la Genèse, Dieu créa homme et femme.
Oui.
Il les créa.
Oui, mais ça, c'est ce que nous, on croit. Mmh. Mmh.
Ben, c'est ce qu'on croit...
Mais dans d'autres traditions...
Dans d'autres traditions... Religieuses.
Religieuses ou culturelles.
Culturelles, d'accord.
Ou culturelles. Ouais. Pourquoi est-ce que parce qu'ils n'ont pas la même tradition que nous, eh bien, on serait heurté par ça? On voit bien que ce genre de réflexion, en fait, se heurte à une recherche d'une vérité sur la nature humaine. Alors, je ne dis pas que vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique et vous avez la définition parfaite de l'homme et que rien ne peut... ne peut changer. D'ailleurs, notre vision sur l'humanité continue à s'affiner. Il y a d'autres points en morale. Un des points...
L'esclavage.
Je pense le plus... Oui, par exemple, la notion de l'esclavage qui a été... Il n'y a jamais eu pire esclavage que celui qui a été mené par l'islam dans les débuts de l'islam et jusqu'au XVIIe siècle à peu près. Saint-Vincent de Paul en a fait les frais. Et par le christianisme, par les pays chrétiens, parce que les esclaves romains étaient tout à fait respectés dans leur dignité. Ils n'avaient pas de droits civiques, ils avaient une famille, ils avaient le nom de famille de leur maître, ils s'occupaient du commerce, etc. Il y avait quand même... Voilà. Donc, un esclavage tel qu'il a été vécu pendant la fameuse traite négrière, de la part de chrétiens et puis aussi de la part de d'autres, hein. Mais il y a quasi... Je crois qu'il n'y a jamais eu pire comme manière de traiter. Donc on en revient. Je ne dis pas que la vision chrétienne, que comme je suis chrétien, j'ai une vision parfaite et une attitude morale parfaite à propos des autres. Mais il y a quand même une vérité sur la nature humaine, enfin une vérité qui a cherché. Et je trouve difficile de dire qu'il peut y avoir plusieurs vérités. À chacun la sienne, puis on essaye de s'articuler. Parce que dans ce cas-là, effectivement, soit il y en a une, soit il existe une vérité, soit il n'y en a pas une. Et dans ce cas-là, le fait de la rechercher devient une espèce d'imposition intellectuelle, enfin une imposition face aux autres. Quoi. Donc, mais vous n'en avez pas parlé ce matin avec le Père Innocent, hein, entre foi et raison.
Ben, si, ça fait écho de toute façon, oui. En fait.
Voilà. On va peut-être poursuivre parce que.
C'est sûr que ça touche après aussi à la question qui suit le chapitre suivant. Question du péché. Voilà. Comment est-ce que je fais pour définir un péché? Il y a des choses qui, comme chrétien pour moi, sont de l'ordre du péché. Par exemple, il y a un commandement de l'Église qui me dit le mercredi des cendres, tu fais jeûne et abstinence. C'est-à-dire, tu ne manges pas de viande pour te souvenir que le Christ se prépare à donner sa chair pour toi sur la croix jusqu'à l'effusion du sang, etc. Ce jour-là, je prends un truc, je prends une soupe au potiron, en boîte, et puis, oh, horreur, je vois sur la boîte qu'il y a écrit « peut contenir des traces de graisse animale ». Mince, j'ai dit que je ne mangeais pas de viande ce jour-là. Est-ce que je suis dans le péché?
Non,
c'est pas
un manque d'amour.
Comment?
C'est pas un manque d'amour.
Non, c'est pas un manque d'amour, c'est pas volontaire.
C'est pas intentionnel.
Voilà. C'est pas intentionnel, je ne connaissais pas la matière. Enfin bref. Comment?
Il n'y a pas de mal en soi.
Non, il n'y a pas de mal.
C'est la faute à Chlore.
Je vais, ce jour-là, je dis, moi, ce qui compte, c'est mon amour. Et donc, pour bien montrer que c'est mon amour qui compte, je vais manger un bon sandwich au pâté.
Je sais que je le fais.
Comment ?
Là, je sais que je le fais, ça, attention.
C'est délibéré. Oui, c'est ça. Donc, on voit bien que selon la manière, selon la disposition d'esprit, selon la matière aussi, parce que entre les graisses animales et le sandwich au pâté, les caractéristiques changent, donc le péché change, mais en fonction de ce que je sais. Donc forcément, quand je cherche à accomplir la loi naturelle, quand je cherche à être conforme à la nature de l'homme, c'est aussi en fonction de ce que je sais, donc de ce que j'approfondis sur l'homme. Donc forcément, la perception de la nature humaine peut être plus ou moins grande. Un point quand même que je veux introduire, parce que c'est très important, sur justement la construction de la personne humaine et la vision de la personne humaine dans l'Église, c'est un point qu'introduit Tertullien, qui dit, alors c'est trois mots latins, caro, c'est pas au tableau, caro, cardo, salutis. Caro, c'est la chair. Cardo, c'est le pivot, le gond, là, c'est la charnière de la porte. Salutis, c'est pour le salut. Là, mon salut se joue dans ma chair. Voilà. Pour bien dire que le Christ qui est venu prendre notre condition humaine n'a pas fait juste de manière symbolique, mais que, vous voyez, pour entrer dans la perspective de la vie éternelle, c'est pas juste mon âme. Mes actes jouent aussi. Et il y a une... Dans la traduction du missel romain, il y a quelque chose qui a été remis, pas là, mais en 1969. La prière avant la communion, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Dans le missel tridentin, c'était « Sanabitur anima mea » et « mon âme sera guérie ». Et on ne dit pas « c'est juste mon âme, c'est moi qui serai guéri ». Alors c'est sûr que je ne suis pas un fidéiste, c'est-à-dire que je ne vais pas aller à la messe en disant « ok, j'ai le Covid, il suffit de communier, comme ça je serai guéri ». Non, ça c'est ce qu'on appelle le fidéisme, c'est une présomption qui est de tenter le Seigneur son Dieu. Voilà, le Seigneur nous donne les moyens, ce n'est pas de la guérison forcément physique, même si on a vu qu'il y a eu des miracles, etc. Mais c'est une guérison qui me dispose tout entier, par mon âme, par ma vie spirituelle, à agir bien. Et c'est toute ma personne qui est appelée à être sauvée. C'est pas juste mon âme. Si c'était juste mon âme qui était appelée à être au ciel, et ensuite mon corps, nourriture pour vers de terre, et c'est fini, je serais pas chrétien. Parce que le Christ est venu sauver les personnes. les êtres qui sont des êtres avec des êtres libres, avec juste une âme et pas de corps, c'est les anges. Bah, quand je meurs, je ne me transforme pas en ange. Je reste une personne humaine, parce que je confesse dans le credo, je crois en la résurrection de la chair. Voilà. Il y a un moment où saint Matthieu dit, dans le ciel, vous serez comme des anges. Voilà. Parce que vous contemplerez la face de Dieu. Donc vous aurez cette même mission. Mais il ne dit pas, vous deviendrez des anges. Et c'est très important parce que, enfin, ça fait partie vraiment de la pensée de l'Église sur la nature humaine, qui est une pensée pour regarder ce qu'est l'être, l'ontologie. Peut-être que le Père Innocent vous en a parlé aussi ce matin. L'être que je suis. Non pas d'abord regarder mes qualités ou mes accidents, mais ce que je suis comme être. Et donc approfondir notre regard sur la nature humaine. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà, j'avance d'un petit pas. La question du péché. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était mon fonds de commerce. S'il n'y avait pas de péché, j'aurais pas de raison d'être prêtre et j'aurais pas de raison d'être prof de morale. Donc je sais pas ce que je fais de ma vie. Voilà, mais il faut d'abord comprendre ce que c'est que le sens du péché. Un petit excursus historique. En 1984, d'ailleurs je vous ai sorti, est parue une exhortation apostolique post-synodale. On fait un synode, et ensuite le pape reprend les conclusions du synode, l'éclaire de sa plume, et publie une petite instruction, ou un petit compte-rendu. Voilà, il y a eu ça par exemple avec Amoris Laetitia, qui est une exhortation post-synodale, après le synode pour la famille. Je ne sais pas s'il y aura une exhortation post-synodale sur le synode, sur la synodalité. Il faudra lui trouver un titre un peu accrocheur, peut-être. Mais peut-être En Marche. Le synode, c'est genre En Marche. Je ne sais pas si ça accroche tout le monde. Et donc, cette exhortation post-synodale là, sur la réconciliation et la pénitence, en fait, Jean-Paul II avait voulu cette réflexion-là parce qu'il y avait un gros débat sur la nature du péché. Il y a des gens, un fameux Breverman, un petit peu avant ça, qui dit que à cause du péché, de l'enseignement sur le péché dans l'Église, on en arriva à croire que la meilleure façon de servir Dieu était de se dresser de toutes les forces de sa personnalité sur les décombres des impulsions instinctives à la façon de colonne sacrée dominant l'obscur terreau maternel.
Vous pouvez répéter le jargon.
Ce qui veut dire, c'est que l'Église a fait du péché un fer de lance. Un autre dira, elle a transformé sa bonne nouvelle de salut en doctrine aliénante où Dieu ne saurait plus apparaître que sous les traits d'un surmoi draconien. Donc le Dieu gendarme qui vous regarde, qui traque tous vos péchés, qui tape dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Ce qui me rappelle la petite anecdote, quand j'étais étudiant à Rome, on avait un sacristain qui s'occupait de toute la propreté de l'église, etc. Il était très jeune, notamment des toilettes qui étaient dans l'église, parce que c'était une église en plein centre de Rome, et du coup il y avait beaucoup de sans-domicile fixe qui profitaient de ça pour aller aux toilettes, et ils ne trouvaient pas toujours les toilettes très propres. Donc il en avait marre de nettoyer, donc au bout d'un moment il fermait à clé, et puis quand il ouvrait rarement, c'était sale encore derrière. Pour la petite anecdote dans l'anecdote, un jour, l'archevêque de Rennes est venu avec les séminaristes et il dit « Est-ce que je peux aller aux toilettes ?» Alors je demande au sacristain « Est-ce qu'il peut aller aux toilettes ?» Et il me dit en italien « Si, c'est ma piscinette, mon piscinette, pour qu'il fasse bien dedans. Hein. » Voilà. devant l'archevêque. Et donc, à un moment, pour essayer de combattre toute cette mauvaise tendance-là de saleté, il avait mis au-dessus de la cuvette, ici aussi, Dieu te voit. Attention, si c'est pas propre en sortant, tu vas le payer là-haut. Donc, vous voyez, une vision très gendarmesque de Dieu. Voilà. Donc, ce sens du péché, là, peut avoir été parfois oppressant dans la manière avec laquelle ça s'est développé. En vérité, notamment, l'influence du jansénisme a beaucoup œuvré là-dedans. Et donc, une question s'est posée après le Concile Vatican II, de savoir faire peut-être une distinction un peu plus souple entre péché véniel et péché mortel. Vous savez ce que c'est qu'un péché véniel ? Un péché véniel, c'est quand le mardi gras, je me suis autorisé une demi-tablette de chocolat et que, en fait, je me suis dit, ouais, sauf que demain c'est mercredi des santé, après c'est le carême, allez, je m'en mange encore une demi et je mets de la chantilly dessus. Oh, ça fait. Ça, c'est le péché véniel. C'est le petit truc, la petite gourmandise. Ou bien, je sais pas, je me gare sur une place. C'est un bon péché véniel, parce que je peux empêcher les autres quand même, mais je me gare à moitié sur trois, je sais pas quoi. Donc, je prends deux places, voilà, c'est un super marché. Et je le vois très bien, et je me dis, oh, c'est rare. De toute façon, ma voiture, elle est vieille, donc s'il y en a un qui me tape dedans, voilà. Ça, c'est le péché véniel. Le péché mortel, c'est je me rends compte que mon voisin, il me pique des poires, et donc, de nuit, alors soit j'empoisonne les poires.
Voilà. Ça, c'est mortel, péché mortel.
De nuit, je vais vider deux bidons d'essence dans son garage et je mets le feu. Voilà, ça c'est un bon péché mortel. Désolé, mais entre la tablette de chocolat et le fait de mettre le feu à la maison du voisin, il ne peut pas y avoir un peu un équilibre qu'on introduirait comme péché grave, juste un péché grave. Et en fait, Jean-Paul II explique qu'est-ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le péché ? C'est un manque d'amour, c'est-à-dire avoir refusé l'amour de Dieu. Alors il y a péché mortel, qui est, il y a matière grave, un carreau de chocolat, c'est pas forcément matière grave, un bidon d'essence ou la maison du voisin, ça peut être matière grave. Donc, matière grave, pleine conscience et volonté de le faire. Voilà. Et là, je me coupe complètement, en fait, de l'amour de Dieu. Et on appelle ça péché mortel parce que je me suis coupé de sa grâce et que du coup, bah, mon âme, elle-même, n'est plus ouverte à la grâce de Dieu. Péché véniel ne me coupe pas de la grâce de Dieu. Et Jean-Paul II dit, je ne sais pas si j'ai mis la citation là, bah, la distinction, elle est là. Et il peut, entre la vie et la mort, alors, il peut y avoir un cercle vicieux dans les péchés véniels qui m'entraînent jusqu'au péché mortel. Souvent, c'est comme ça qu'on commence. Hein. C'est à partir de péchés véniels, on s'habitue. Oh, c'est pas très grave. Oh, quelques petites grossièretés, oh, comme ça. Bon, c'est les vulgarités, tout le monde les dit. Et puis après, bon, c'est les mensonges, c'est pareil. Tout le monde les dit. Et puis, à la fin, on finit par détourner l'argent de la société dans laquelle on est, parce que a toujours des besoins aussi, et puis en fait, tout le monde économiquement triche un petit peu sur ses impôts et tout ça, donc finalement, voilà. Et du coup, comment ?
Un peu plus
à peu. Oui, c'est ça. Mais vous voyez, le raisonnement, c'est qu'on rentre dans le péché véniel, on s'habitue au péché véniel, et c'est ça ce qui nous mène généralement au péché mortel. Mais Jean-Paul le dit, entre la vie et la mort, soit t'es vivant, soit t'es mort. Le pronostic vital peut être engagé. Ok, mais t'es encore vivant. Voilà. Donc, il revient beaucoup là-dessus. Et donc, il va parler du péché comme des ferments de mort. De l'évangile lu dans la communion ecclésiale, c'est-à-dire avec tous les fidèles, la conscience chrétienne a acquis au long des générations une fine sensibilité et une perception aiguë des ferments de mort qui sont contenus dans le péché. Sensibilité, capacité de perception aussi pour détecter de tels ferments, pardon, dans les 1000 formes assumées du péché, sous les 1000 faces sous lesquelles il se présente. C'est ce qu'on pourrait appeler le sens du péché. Très important ce sens du péché, parce que c'est lui aussi qui va caractériser, qui va permettre de caractériser nos actes humains, actes bons ou actes mauvais. Quels éléments on a pour discerner sur un acte, pour savoir s'il est bon ou pécamineux? Il peut y avoir trois choses. Son objet, la fin qu'il poursuit, alors il y a une petite distinction là, entre l'objet et la fin, et les circonstances. Alors, l'objet de l'acte. L'objet, c'est un objet, on va l'appeler comme l'objet moral. C'est-à-dire, ce n'est pas juste l'objet physique d'une action. Je fais de la pâte à pain, c'est pour faire du pain, quoi. Ça, c'est l'objet moral de mon... C'est pas juste le fait de pétrir ma farine, mon eau, mon sel et ma levure. Voilà. C'est simplement... je fais du pain. Et il y a un objet moral. Il y a une volonté. Et puis, il y a une fin. La fin, c'est ce qui va à la perfection de l'être. Si je fais du pain uniquement pour dire à mon confrère, t'as vu le pain que je fais, il est meilleur que le tien, on voit bien que la fin de l'acte, le but ultime de l'acte, n'est pas juste. Même si l'objet c'est de faire du pain pour prendre mon âge, le but ultime n'est pas juste. Si la fin de l'acte c'est de s'ouvrir avec du bon pain, d'avoir de la farine bio, sans pesticides, etc., etc., ce sera bon, a priori. Et ensuite, le troisième élément, alors, pour juger de la qualité morale de l'acte, il faut justement voir ce qui est de l'objet. Je donne un exemple avec un couteau que je plante dans le cœur du même confrère, celui qui fait du mauvais pain. Ce sera contraire à la raison, donc ce sera un acte moralement mauvais, c'est sûr, si je le fais pour l'assassiner. Voilà. Ça peut être éventuellement recevable si lui-même va attaquer avec un sabre du samouraï et que c'est la légitime défense. J'ai pris le couteau, je me suis défendu comme ça. Voilà. Et ce sera inqualifiable moralement si, en finissant la fameuse bouteille de vin de tout à l'heure, je crois que mon couteau c'est un ballon de basket et que mon confrère c'est un panier de basket. Voilà. Et là, ça veut dire que je suis. Il n'y a pas de qualification morale. Je suis juste entré dans une certaine démence. Et c'est... Ensuite, ce qui peut qualifier l'acte aussi, ce sont les circonstances. Parce qu'il y a des actes, on l'a déjà dit, peut être plus ou moins grave en fonction des circonstances. Qui le fait? Quel est l'acte posé? Pourquoi il a été posé? Où ça a été fait? Quand? Avec quelle aide? Etc. Un des éléments que... un exemple qu'on peut introduire, je l'ai appris à plusieurs reprises. Si vous allez sur le port de Lorient et que vous voyez un matelot philippin de 19 ans, ivre mort à 4 heures du matin, c'est pas bien de sa part. Mais on peut aussi comprendre qu'il y a des circonstances atténuantes. Il est tout jeune, c'est sa première grande escale, c'est la première fois peut-être qu'il a touché une bouteille d'alcool et en fait il a bu deux bières et voilà, il est mort. Ça fait 4 mois qu'il était en mer et du coup il a voulu fêter son arrivée sur Terre et ça, il a été excessif, etc. Si vous voyez sur le port de Lorient un cardinal en grand habit, ivre mort à 4 heures du matin, c'est moralement plus grave. Oui, c'est plus rare aussi. Mais on voit bien que qui commet l'acte, où il le fait, Le cardinal, ce serait un peu moins grave, beaucoup, mais s'il était ivre mort à 4h du matin en grand habit chez lui. Voilà. Ce serait un peu moins grave, parce que ça ajoute un peu moins au scandale.
S'il était en civil, on ne reconnaîtrait pas qu'il est cardinal.
Voilà. Pour faire ce genre de choses, je pense qu'il vaut mieux se mettre en civil. Mais ça voudrait dire que ce serait vraiment un acte prémédité, délibéré. Voilà. Donc on voit bien que les circonstances portent sur la pécaminosité des actes, c'est-à-dire sur leur dimension pécamineuse ou pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'Église, quand elle dit aux fidèles, en vous confessant, il est bon de donner, de ne pas juste dire premier commandement 7 fois, deuxième commandement 3 fois, troisième commandement. Il est bon de donner aussi un peu les circonstances pour éclairer le jugement que le prêtre peut dire. Il est juge et médecin dans le confessionnal. Il peut donner des éléments d'éclairage pour éviter de retomber dans le péché. Une des choses que je peux voir parfois en tant que professeur, c'est je m'accuse d'avoir manqué la messe le dimanche 2 fois depuis 3 mois. Et pourquoi est-ce que vous avez manqué la messe du dimanche 2 fois? Parce que vous aviez la Roland-Garros à cette heure-là et que du coup vous n'avez pas à voir en différé parce que c'est pas la même chose? Ou c'est parce que vous étiez en train de vous faire opérer de la prothèse de vous faire poser une prothèse pour du fémur ou du col du fémur ou je sais pas quoi et que du coup vous étiez à l'hôpital depuis 10 jours? Voilà. C'est pas exactement la même chose, ça qualifie l'acte complètement différemment. Voilà, mais c'est important de savoir que nos actes peuvent être des actes bons ou des actes de péché. Et ce sens du péché, là, c'est toujours la même source, hein, il a sa racine dans la conscience de l'homme. On dit, alors ça c'est une partie qui est assez intéressante dans la Torah, tout acte doit être un acte libre. On parle des actes humains, c'est-à-dire des actes libres. Le fait de respirer n'est pas considéré comme un acte libre, c'est un acte naturel. Voilà. Mais si je bloque ma respiration, pour telle ou telle raison, ça peut devenir un acte libre. Je coupe l'acte naturel. Donc, voilà. Enfin bref. Et la conscience, elle a une place prépondérante dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que l'Église catholique encourage à toujours suivre la voie de la conscience. Et si ma conscience me dit « Non, tu n'iras pas au cours de l'après-midi de l'Athénée », eh bien, je dois ne pas aller au cours de l'après-midi de l'Athénée. Quitte à ne pas avoir le petit tampon sur ma carte, là, comme ça. Donc, la première chose, quand ma conscience me dit quelque chose qui est en porte-à-faux par rapport à la pensée de l'Église, à la pensée de mes supérieurs, à la pensée de mon époux, de mon épouse, et tout ça, première chose, approfondissement de la conscience. C'est-à-dire, je vais chercher pourquoi l'autre pense ça. Et si je n'arrive pas à trouver les éléments objectifs qui font que ce que l'autre pense est perçu comme un bien, alors j'ai le devoir de suivre ma conscience et d'accepter le châtiment qui s'ensuit. Alors, le cardinal Newman au 19e siècle donne un exemple comme ça. Lui-même, c'est celui vraiment qui a suivi sa conscience jusqu'au bout. Il a fait 2 grandes expériences de la conscience humaine. D'abord, il a grandi dans un milieu anglican, assez fervent. Il était un élève extrêmement brillant. Vous voyez le genre d'élèves qui ont une table devant tout le monde, fort en thème. On lui donnait une page d'anglais, il la traduisait en grec, enfin bref. Donc, très, très, très brillant. Et quand il a eu autour de 13-14 ans, il a commencé à lire les philosophes et il est rentré dans un raisonnement un peu plus scientiste. Donc, mettant sa foi entre parenthèses, pour essayer de regarder plutôt du côté des sciences exactes, si elles ne contredisaient pas la foi. Et il était un peu dans cette attitude-là. Et quand il a eu 15 ans, il est allé réviser ses examens, parce qu'il avait peur de ne pas être le premier, sans doute. Et donc, il est allé pendant une semaine réviser ses examens, et en travaillant sa philosophie, à un moment, il ne sait pas pourquoi, au fond de lui-même, il a eu la conscience claire d'être infiniment aimé et choisi par Dieu. Il a ressenti, il a fait cette expérience de Dieu. On peut le faire, mais il l'a fait de façon très forte. Et ce jour-là, il a choisi résolument de suivre Dieu. Donc, il s'est dirigé vers une carrière ecclésiastique. Et en plus, il a choisi, ce qui n'était pas du tout commun dans l'église anglicane à son époque, au 19e siècle, il a choisi pour suivre Dieu d'embrasser le célibat. Donc, de ne pas se marier pour choisir exclusivement Dieu pour répondre à cet appel qu'il ressentait particulier sur lui, qu'il ne savait pas définir vraiment. 22 ans, il est prêtre anglican. 25 ans, il est curé de la plus grosse paroisse d'Oxford. Et on vient l'écouter, il fait des sermons qui durent trois quarts d'heure, une heure, comme tout le monde. Et on vient l'écouter et les gens affluent vers lui. Parce que ces sermons sont vraiment très fondamentaux. Il ouvre visiblement sur le ciel. Alors que, dit-on, il parlait d'un ton monocorde. En plus, ça c'est moi qui le rajoute. En plus, c'était en anglais. Donc, je ne vois pas très bien ce que ça pouvait avoir d'attirant. Et les gens y allaient. Bref, il continue comme ça. Mais il trouve que l'église anglicane est un peu léthargique. On est au 19e siècle en Angleterre, hein, c'est pas non plus la société la plus fun qui soit. Et il se dit, cette église-là, il faudrait qu'elle retrouve un peu le zèle de l'église des origines. Donc il va chercher, il essaie de tirer chez les pères de l'église des notions qui pourraient éclairer la vie ecclésiale, etc. Et ça met en lui un profond doute, avec des amis, quand il a une trentaine d'années, il a 32 ans, il va en Sicile pour prendre trois semaines de vacances. Et là, il fait une prière qui est assez connue, qui dit « Seigneur, éclaire-moi, donne-moi ta lumière, mène-moi là où je ne voudrais pas aller. » Tout ça. Et dans le mouvement de ça, il a en conscience la certitude, puis il étudie l'histoire aussi un peu, la certitude que, en fait, la tradition apostolique s'est rompue dans l'Église anglicane, et qu'il faut rejoindre l'Église catholique qui a toujours continué cette tradition apostolique, et que donc il va devoir aller vers les catholiques. Il trouvait que l'Église anglicane était léthargique, mais que l'Église catholique, à côté, c'était l'austérité moribonde. Et donc il ne veut pas, il n'a pas d'attrait humain pour l'Église catholique. Il écrit à une de ses amies, « Oh, que c'est dur de m'en aller, de vous laisser, vous tous, de m'en aller vers ces gens que je ne connais pas et pour lesquels je n'ai aucun attrait. » Et il se convertit et il perd ses amis, comme ça. Bon, il viendra ensuite catholique, cardinal de l'Église romaine. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que sa conscience, il l'a suivi en étant, se laissant éclairer de l'intérieur, mais pas juste son instinct, pas juste son goût, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment profond. Et alors il dit, on va l'interroger quelques années après, une vingtaine d'années après, il sera pris un peu en porte-à-faux entre le premier ministre d'Angleterre et les catholiques, etc. Et il va rédiger une longue lettre, qui fait 150 pages, et dans laquelle il dit, si le pape disait en conscience à tous les prêtres du monde d'organiser des tombolas en faveur des missions, ou d'arrêter définitivement de boire du vin. On est, c'est le deuxième aspect qui est plus dur, surtout. Et qu'un prêtre estimait que, en morale, en conscience, il soit illégitime d'organiser des tombolas parce que c'est des jeux de hasard et que, du coup, on tente Dieu, etc. Ou qu'il soit illégitime en conscience d'arrêter de boire du vin parce que c'est bon pour la circulation du sang et qu'il y a du fer dedans, Eh bien, ce prêtre devrait d'abord essayer de se ranger aux arguments du pape, mais s'il ne trouve pas les arguments du pape convaincants, il doit désobéir au pape, suivre sa conscience et être châtié en conséquence, c'est-à-dire pouvoir avoir son ministère qui soit suspendu, etc. Donc c'est très délicat cette histoire de la conscience. Et je ne suis pas en train de vous dire, bah, de toute façon chacun fait comme il veut. Voilà, c'est une question d'approfondissement qui est vraiment très profonde. En sachant aussi que notre conscience, elle se forme, elle s'éclaire, pas par justement nos actes bons, par la révélation, par notre recherche de la vérité, et elle peut aussi être faussée. On peut avoir une conscience qui soit faussée, c'est ce que disait Sabrina tout à l'heure. L'exemple qu'on avait vis-à-vis de cette tribu avec le petit enfant, on voit bien que la conscience, je crois, est faussée sur la perception de la réelle valeur de l'humanité.
C'est toute la difficulté du discernement.
C'est toute la difficulté du discernement, oui. Et c'est le point sur lequel je viens maintenant, qui est la question de la liberté. Dieu veut que nous soyons libres. Il nous a créés libres comme lui. La liberté, qu'est-ce que c'est? La liberté, c'est celle qui nous est donnée de choisir le bien. Lorsque Dieu nous crée libres comme lui, nous fait participer de sa liberté, il nous met dans le paradis terrestre, vous connaissez l'histoire du livre de la Genèse, et en plein milieu, il met cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que ça vous semble logique? C'est un peu vache quand même. Et il nous dit, et tu ne toucheras pas de ça. Donc il nous donne un interdit. Je crois que notre liberté, elle est vraie quand elle est mise à la preuve. C'est-à-dire que, en fait, soit on peut voir les choses des deux côtés. Du côté jalousie du diable, Dieu t'interdit de manger de ça, ou du côté bonté de Dieu, Dieu te donne le choix d'opter pour tout le reste. Voilà. Et s'il n'y avait pas aussi ce petit interdit, je ne pourrais même pas choisir de manger le reste. Je ne pourrais pas poser cet acte-là. Ça, on le voit bien quand les enfants arrivent à l'âge de raison, où il y a des bêtises qu'ils aiment, vers lesquelles les enfants. Je parle d'expérience. Il y a des enfants qui sont plus bêtisards que d'autres. Moi, je faisais partie de ceux-là. Mais j'ai des souvenirs très clairs des jours où j'aurais très bien pu faire des bêtises et je choisis de faire le bien. La possibilité m'était donnée et je choisis de faire le bien. Et ça me fait grandir, quoi. Et pour moi, avec beaucoup de recul, c'est une vraie expérience de la liberté. C'est-à-dire que quand Dieu nous crée libres, c'est une liberté qui permet vraiment de choisir ce qui est bon. Alors, oui, je ne vous ai pas mis la... Il y a une phrase dans l'Épître aux Galates, mais qui vous est redonnée. Voilà, juste là. C'est saint Paul qui nous dit « Vous, en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, que cette liberté ne tourne pas en prétexte pour vivre selon la chair, mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. Car un seul précepte contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La valeur de la liberté chrétienne, comme toute vertu chrétienne, est qu'elle est informée par la charité. Je ne sais pas si ce matin, avec le Père Innocent, vous avez parlé de matière et forme. On dit que l'âme est la forme du corps. Bon, le corps, c'est la matière, là, ce machin-là. Et l'âme, c'est ce qui nous donne de spiritualiser la matière, quoi. C'est toute la personne. Je ne peux pas dire, ah ben non, mais là, c'est mon âme qui agit comme ça, là, c'est mon corps. Alors, effectivement, de temps en temps, quand je trébuche sur une marche, mon corps m'entraîne vers le bas. Mais ce n'est pas un acte humain, ce n'est pas un acte libre. Voilà. Et il y a une unité de l'âme et du corps dedans. Et bien, de la même manière, dans nos vertus et dans la liberté, il y a une unité de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et du prochain, qui devient un peu le moteur, voilà. C'est la raison de vivre. Alors évidemment, je ne dissèque pas chacun de mes actes en disant « y a-t-il de la charité dedans ?» etc. Quand j'ai des discernements forts, je peux le faire. Est-ce qu'il y a vraiment l'amour sur le fond ? Mais voilà, c'est l'amour qui va être le premier moteur de la liberté. C'est-à-dire, je choisis par amour le bien que je vais réaliser, ou l'acte que je ne vais pas poser, le mal que je ne vais pas faire, etc. Tertullien, le même qui disait que la chair, donc le corps, est le pivot du salut, dit « Rien n'exprime mieux l'image et la ressemblance de Dieu que le fait que l'homme est constitué libre quant à sa décision et quant à son pouvoir. » Et un de ses contemporains, Saint Grégoire de Nice, dira « L'homme devient déiforme et bienheureux par son libre arbitre ou par sa liberté, car l'autarcie et l'autonomie sont le propre de la nature divine. » Ce que j'aime, c'est cette première partie, surtout l'homme devient déiforme et bienheureux. C'est vraiment ce que Dieu nous donne en partage, cette liberté. Comment est-ce que Dieu exprime sa liberté ? Par la création. C'est-à-dire un débordement d'amour qui fait qu'il nous crée. Franchement, il n'avait pas besoin de nous. Et d'ailleurs, l'histoire montre qu'on lui a apporté pas mal de problèmes. Mais il déborde d'amour. Oui ?
Quelle est la définition de déiforme ?
Déiforme, c'est en forme de Dieu.
D'accord.
Voilà. C'est, oui, pardon. Quelle est cette liberté qui nous est donnée ? Alors, je vais revenir un petit peu avant. Et je suis perdu dans les éléments. Non, c'est là. La liberté qui nous est donnée, Jean-Paul II va la détailler, notamment dans cette déclinaison de l'amour. Il dira, l'homme et la femme ont été créés libres l'un vis-à-vis de l'autre. C'est une liberté qui s'est pleinement exprimée jusqu'au péché originel. Le péché originel se manifeste par le fait que l'homme et la femme se cachent de Dieu et se cachent l'un de l'autre. Et en fait, ils perdent leur liberté parce qu'il y a un jeu de pouvoir, séduction, domination qui se met en place. Et on voit bien qu'on est un peu comme ça. Dans nos relations avec les autres, avoir une relation purement gratuite, sans chercher un peu à dominer ou un peu à séduire pour attirer l'autre, etc., c'est très difficile. On est un peu esclave du regard des autres. On appelle une vraie liberté. L'homme et la femme, dans leur condition originelle, ils étaient libres de toute contrainte. D'abord, leur corps n'était pas un obstacle. Moi, mon corps est devenu un obstacle. C'est-à-dire que mon corps, mon visage exprime ma personne, mes yeux sont reflets de mon âme, etc., plus ou moins. Mais mon corps devient un obstacle par rapport aux autres. C'est-à-dire que la manière avec laquelle je présente mon corps devient tout de suite interprétable. Il y a des choses, même si je suis très libre de mon corps, si je suis quelqu'un de complètement dépouillé, si j'étais venu nu pour faire un cours, je suis sûr qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui auraient été choqués. Voilà. Parce que on a... Comment ?
Non, pas choquant, ce serait
du
bon, il y a tellement de trucs là.
Ouais, je crois qu'il y en a qui seraient partis quand même.
Ça t'en rompait.
Comment ?
Ça aurait été il y a 10 ans, j'aurais peut-être dit oui. Et aujourd'hui, avec notre société, avec tous les jeunes tombés sur notre chemin, j'avoue que je vous aurais vu aujourd'hui, j'aurais dit bon, ben, si le cours est bien finalement, pourquoi pas ?
Il y a
10 ans. Ah oui.
Il y a 10 ans. Même il y a 10 ans, parce qu'en fait, c'est pas, en fait. Je veux dire, on ne rentre pas comme ça, tout nu dans une... Ça ne se fait pas, quoi.
Ben non, ça ne se fait pas.
C'est fort, voilà, c'est comme ça.
Ça ne se fait pas. Parce que la présentation corporelle...
C'est sociétal.
Comment ?
C'est la société. C'est qu'on a vu qu'ils ne sont pas toujours habillés comme nous, quoi.
Oui, mais...
Parce qu'ils ont l'habitude.
Mais pourquoi ? Non, mais je dis pas que c'est une question d'esthétique vestimentaire ou je sais pas quoi. C'est une question que le regard des autres joue sur moi. Donc, je suis pas complètement libre. Même si j'étais dans une société où on vivait nu, je sais plus dans quel bouquin de science-fiction c'est ça. Où il n'y a plus du tout ces contraintes-là.
Non, aux États-Unis, ils ont fait des expériences comme ça.
Eh bien, oui, mais le regard des autres se porterait sur moi, peut-être pas sur la nudité, on s'affranchirait de la nudité, mais sur d'autres trucs, c'est sûr. Il n'y a pas une vraie liberté, totale liberté. Comme vous aviez une...
Oui, mais la question, qu'est-ce qu'on fait des homosexuels ?
C'est-à-dire ? Là, je suis dans la... Alors, pour l'instant, je suis dans la situation précédente. Je suis dans la signification conjugale des corps. Donc, le fait que dans la nature de nous-mêmes, nous soyons faits pour nous donner dans une complémentarité, dans la condition originelle. Et le premier point sur lequel je veux insister, c'est le fait que je suis libre, quand je suis libre, de me donner et de recevoir l'autre tel qu'il est. Ensuite, Jean-Paul II va beaucoup insister à partir de la Genèse aussi sur effectivement ce que vous avez peut-être eu le temps de lire là qui est au tableau, sur la signification conjugale des corps dans la complémentarité homme-femme. C'est une des raisons pour lesquelles l'Église n'encourage pas l'homosexualité, la considération de l'homosexualité comme quelque chose d'étant naturel dans la vie humaine. Elle ne condamne pas la personne homosexuelle, hein, attention, parce qu'il y a une grande miséricorde envers toute personne. Vous vous souvenez de la parole du Saint-Père en disant « Qui suis-je pour juger ? Je ne suis pas là pour regarder comment vivent les autres. » Parce que dans les hétérosexuels aussi, il peut y avoir un certain nombre de jugements. L'Église n'est pas là pour mettre des caméras dans les chambres conjugales et vérifier en disant « Attendez, vous venez au confessionnal, attendez que je revisionne tout ce qui s'est passé pour voir si c'était bon. » Parce que c'est pas ça. Mais l'Église donne des indications pour que la vie morale qui va jusqu'à la sexualité soit vécue de la manière la plus authentique et la plus libre possible, justement, dans la conformité à la nature. Voilà. Et c'est là... qu'effectivement, l'Église n'encourage pas l'homosexualité. Mais sans dire, d'abord, sans savoir exactement, toujours, d'où vient cette homosexualité. Si c'est social, si c'est quelque chose qui est psychologique ancré en nous, si c'est quelque chose qui parfois peut aussi résulter de blessures, hein, c'est ce qui est ressorti dans le rapport de la SIAZ, où il y a plusieurs personnes qui, dans leur témoignage, ont dit « Les blessures que j'ai vécues dans des cas de violence sexuelle reçue, m'ont ensuite enfermé dans une homosexualité de laquelle je voudrais me départir pour être libre. Voilà. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Donc il faut être prudent sur la nature de l'homosexualité, puis en disant, en en parlant comme ça. Mais l'Église dit, c'est sûr que la manière authentique de se donner, c'est un amour réciproque homme-femme qui contient en lui une fécondité aussi et qui s'exprime jusque dans la chair. Mais l'Église ne dit pas aussi, comme c'est un homme avec une femme, tout est idéalement vécu. On voit très bien que dans l'union sexuelle, une recherche de perfection qui est toujours très difficile à avoir, une recherche de vérité. Et une union sexuelle n'est pas toujours bien vécue. C'est pas parce que on est, j'allais dire, dans les codes, dans le mariage, avec ouverture de fécondité entre un mari et une femme, que les deux le vivent toujours bien. Quoi. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la...
Mais l'Église ne se positionne pas non plus dans un autre domaine sur le concubinage.
C'est-à-dire ?
Ben, il y a des familles qui vivent ensemble et qui sont...
Oui, mais si.
Des chrétiens très fervents,
oui,
et
oui,
qui ne sont pas pour autant mariés,
oui,
et qui ont des enfants.
Oui.
Et l'Église ne. En fait, elle prend position sur les homosexuels, mais elle prend position sur, les,
si,
sur le concubinage.
Si, elle prend position sur le concubinage, puisqu'elle dit que la forme de vie normale pour deux baptisés qui font une famille, c'est le sacrement de mariage.
Voilà. Oui, mais elle est moins dure, je veux dire, elle est moins dure.
Je crois pas. Non. Je crois que les médias donnent plus d'écho sur cette question-là parce qu'elle est plus en vogue là. Mais je crois pas que ce soit. Mais faut pas le. Enfin, là encore, vous voyez, on rentre dans une morale de précepte et d'obligation. C'est dur, c'est autorisé, il y a le droit, il n'y a pas le droit. Et ce qu'on recherche, c'est vraiment les moyens de développer un authentique bonheur. Enfin, une recherche de la vie éternelle. Voilà. Et l'Église ne dit même pas si quelqu'un est concubinaire ou si quelqu'un est homosexuel, il n'ira pas au ciel. L'Église n'a jamais dit ça. Et même au moment les plus, qu'on appelle maintenant obscurantiste dans les témoignages, dans les documentaires d'Arte ou je sais pas quoi, l'Église n'a jamais condamné à l'enfer. Jamais personne. Elle a dit, en revanche, par exemple, pour la question de l'ex-communication, et c'est le cas pour ces situations, l'Église dit, nous croyons que la situation dans laquelle vous vivez, qui en plus est une situation publique, donc qui a un effet de scandale, est une situation qui vous coupe de la grâce, et que donc la communion sacramentelle que vous recevez ne produit pas la grâce, ne donne pas en vous la grâce qu'elle devrait vous donner. Voilà. Et que donc, et moi j'ai vu des témoignages comme ça pour comprendre votre situation, par exemple des personnes qui sont divorcées en situation de nouvelle union ou des situations de nouvelle union permettent de revenir à une pratique de la foi plus régulière. C'est étonnant. Dans une situation conjugale, je vais dire non homologuée. Voilà. Eh bien, moi j'ai vu des personnes faire un chemin douloureux au début, douloureux, qui a vraiment commencé dans les larmes pour arriver à un acte de communion qui était. Au début, c'était des personnes qui communiaient sacramentellement, mais qui un jour, donc, au cours d'une discussion, enfin, le couple auquel je pense, se sont rendu compte que l'Église ne voyait pas ça comme la démarche logique. Et donc, ils ont fait tout un cheminement très édifiant pour essayer de comprendre pourquoi. Et ça a commencé dans les larmes, comme je dis, dans les larmes, c'est vraiment dans les larmes. Et chaque mois, l'approfondissement de la Bible, etc., jusqu'au jour où ils ont décidé de faire un acte de communion spirituelle et de venir demander la bénédiction. Eh bien, je pense que cette démarche de foi, de conscience, parce que c'était vraiment une démarche de conscience, qui, très honnêtement, publiquement, enfin, je veux dire, dans la paroisse où ils étaient, etc., ça passait, quoi. Tout le monde était copain, donc voilà, personne n'allait embêter personne et allait leur dire « Oh, qu'est-ce que vous faites, là ?» Voilà. Si vous faites ça, mettez au moins deux fois plus à la quête, parce que quand même, personne n'a été rien leur dire, mais eux-mêmes ont vécu cette démarche-là. Je suis intimement persuadé que cette démarche-là de mise en vérité et de liberté produira beaucoup plus de grâce et leur sera compté infiniment plus que la facilité de dire on fait comme tout le monde, on ne veut pas qu'il y ait de distinction et puis le regard des autres, et hop, on fait tous pareil. Comme on est dans une société qui est un peu la société de la standardisation, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais je crois que ça joue beaucoup. Donc, c'est vraiment le mouvement du cœur aussi qui joue là-dedans.
J'ai un autre exemple aussi, parce que nous, dans le Sud, là, on a beaucoup avancé sur les divorcés remariés, et en particulier avec les laïcs dominicains.
Dans le Sud, vous voulez dire du côté de Broye et tout ça ?
Et ce qui était. Alors, donc, votre témoignage, là, nous, on l'a vécu dans une fraternité, et avec un couple qui nous a édifiés, et le rôle de l'Église a été très important.
Oui.
Parce qu'à un moment donné, bon, on a vraiment posé la question de leur présence dans cette fraternité. Ça a fait avancer l'ordre des Dominicains, et l'évêque a joué un rôle très important. Parce que ça nous a permis à nous, laïcs, de nous remettre aussi dans l'Église locale au travers d'un accompagnement.
Mmh.
Voilà. Je voulais juste dire aussi que le rôle du prêtre, le rôle de l'institution Église a été très bienveillante, mais très importante pour le reste de la communauté, en dehors de la petite vie des laïcs dominicains. Voilà. Et de toute façon, c'était un renvoi à l'accompagnement personnel et à la responsabilité de l'accompagnateur, du prêtre.
De toute façon, il y a toujours cette implication, et qui est vraiment importante, cette implication personnelle et libre, mais qu'on cherche à faire en vérité. Alors, pour terminer, parce que je crois qu'il est l'heure, je voudrais quand même introduire une petite dimension qui est celle de ce qu'on appelle la sequela Christi, c'est-à-dire suivre le Christ, être disciple. Le pape François, il dit « être disciple missionnaire », vous connaissez bien l'expression. Le principe de la vie morale, c'est, comme dit saint Irénée, suivre le Sauveur et participer à sa lumière. Je reviens un petit peu à ce que j'ai introduit au tout début avec la question de la grâce, en disant que la vie sacramentelle, la vie de prière, etc., était le socle de la vie morale. On donne beaucoup d'éléments pour réfléchir sur ce qu'on est, etc., mais le point fondamental, c'est de chercher à ressembler au Christ. L'imitation du Christ. L'imitation du Christ qui n'est pas un mimétisme, mais qui est à chercher à aimer d'un amour aussi fort que celui du Christ. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd et qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où que je suis, moi, là aussi sera mon serviteur à moi. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Voilà, je crois que cette petite phrase que nous donne le Christ, qui va avec ce qu'il nous dira, hein, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, sa vie qu'il donne librement, il fallait qu'il le fasse, sinon on était foutu. Il le fait en obéissance au Père, c'est ce que dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Mais une obéissance qui est libre, pas quelque chose de servile. C'est-à-dire qu'il a accepté cela pour se donner. Prends un exemple qui est légèrement inférieur, pas beaucoup, mais légèrement inférieur. J'ai entendu l'appel du Christ à être prêtre. Le jour de mon ordination, quand j'ai été ordonné prêtre, il y a quelqu'un qui m'a dit, plusieurs personnes qui m'ont dit, merci, hein, merci de vous donner comme ça à l'Église. J'ai dit, merci, de toute façon j'étais un peu obligé, non ? Parce que si je ne le faisais pas, il continuait à me tarabuster intérieurement. Donc, autant être tranquille, je vais dire avec lui, et dire oui. Évidemment, je le dis un petit peu en rigolant, sauf que je l'ai fait librement, le plus librement possible. Je sens cet appel intérieur, je me donne librement, mais par obéissance à un appel. Pour moi, les deux ne sont pas du tout opposés. Et j'espère que ça n'est pas non plus pour ceux qui sont, par exemple, dans la vie conjugale, qui sont sentis appelés à vivre avec l'autre. Il y a une forme d'obéissance, de don, etc. Je me donne à toi, c'est libre. Mais en fait, que si je me donne à toi, d'une certaine manière, je t'appartiens aussi. Oh, attendez.
Dans un autre sens, il y en a qui sont appelés au célibat.
Oui.
Et il y a un ordre des vierges consacrées, ou un ordre des...
Oui, oui.
Il y a des gens qui se sont appelés au célibat.
Oui, il y a une sorte de vocation. Voilà, je vais terminer là. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques ? J'aurais pu tenir en fait encore une heure. Mais... ça va pour tout le monde. Bon, j'espère en tout cas que ça a permis de poser quelques jalons et puis surtout de continuer à approfondir quoi, cette joie de marcher librement à la suite du Christ et de faire en sorte, je crois beaucoup à ça, que chacun, c'est un peu ce que dit Saint-Thérèse de Lisieux, que chacun de nos actes soit un acte d'amour pour le Christ. C'est pas la même chose de ramasser une épingle et de ramasser une épingle par amour. Et je crois que, évidemment, dans les grandes choses de notre existence, ça, les grandes options qu'on a jouent, mais ceux qui me disent « Ah ben toi, c'est bon, la voie du ciel était ouverte parce que t'es prêtre », je crois qu'effectivement, enfin, les réponses sera plus facile peut-être de dire bah oui tu m'as appelé je suis là, mais je crois que ce qui est la cause principale de ma sainteté, si tant est qu'il y en ait un petit peu, c'est surtout dans les petits actes qui sont des actes qui me font grandir.
Vous l'avez très bien fait aujourd'hui.
C'était votre dernier cours là, non?
Non, il y en a pas mal.